Gaston Bachelard, radio. Aujourd'hui, l'homme du jour, l'homme de la nuit.
Il y a, si vous voulez, un mélange.
Ah,
il
voilà,
y a des gens
là,
qui, il y a des gens qui ne sont jamais réveillés. Et il y a des gens qui ne sont jamais endormis. Mais au fond, et c'est par le sommeil que nous sommes les plus semblables les uns aux autres. Notre inconscient est d'une richesse humaine extraordinaire en images, en poésie et...
Vous venez de dire quelque chose qui me paraît extrêmement important, car si c'est par le sommeil que nous sommes les plus semblables les uns aux autres, oui, alors nous trouvons peut-être...
L'insomnie, mal des philosophes, s'accroît de l'énervement dû au bruit de la ville, qu'en place Maubert, tard dans la nuit, les automobiles ronflent, que le roulement des camions me fait maudire ma destinée de citadin, je trouve un apaisement à vivre les métaphores de l'océan. On sait bien que la ville est une mer bruyante. On a dit bien des fois que Paris fait entendre au centre de la nuit le murmure incessant du flot et des marées. De ces pensifs, je fais alors une image sincère, une image qui est mienne, aussi mienne que si je l'inventais moi-même, suivant ma douce manie de croire que je suis toujours le sujet de ce que je pense. Si le roulement des voitures devient plus douloureux, je m'ingénie à y retrouver la voix du tonnerre, un tonnerre qui me parle et qui me gronde, et j'ai pitié de moi-même. Te voilà donc, pauvre philosophe, à nouveau dans la tempête, dans les tempêtes de la vie. Je fais de la rêverie abstraite concrète. Mon divan est une barque perdue sur les flots. Ce sifflement subi, c'est le vent dans les voiles. L'air en furie klaxonne de toutes parts. Et je me parle pour me réconforter. Vois, ton esquif reste solide. Tu es en sûreté dans ton bateau de pierre. Dors, malgré la tempête. Dors dans la tempête, dors dans ton courage. Heureux d'être un homme assailli par les flots. Et je m'endors, bercé par les bruits de Paris. Gaston Bachelard.
Le jour et la nuit. C'est ainsi que, métaphoriquement, Bachelard aimait à désigner les deux versants de son travail. L'homme du jour est rationnel, actif, engagé dans le social. Il étudie des livres de science. L'homme de la nuit vit une solitude rêveuse. Il lit passionnément et interminablement des livres de poésie. Animus et Anima. S'agit-il en fait de deux modes différents de connaissance ? Gaston Bachelard s'est expliqué sur ce point dans un entretien qu'il a eu avec Jean Lescure et Jean Amrouche le 15 novembre 1952.
Je crois que je n'ai pas à me défendre ici de mon amour inconditionné pour les poètes, pour la poésie, et par conséquent, la question qu'il faut maintenant peut-être traiter, c'est de se demander quel genre de valeur est la valeur poétique, quelle valeur d'animation l'inspiration poétique nous donne. Nous entrons dans un autre système de valeurs.
Oui, vous avez dit vous-même que l'homme aurait un destin poétique, de même que vous avez dit qu'il avait également un destin scientifique.
Ce sont deux destins parallèles, à mon point de vue.
Voilà. Alors, la question qui me semble importante, c'est celle-ci. Lorsque vous décrivez la conduite scientifique, vous la décrivez comme une conduite spécifique.
Oui.
N'est-ce pas? Une animation spécifique.
Oui.
Et d'un autre côté, la conduite esthétique est également une conduite spécifique, une animation spécifique. N'y a-t-il pas une sorte d'humanisme supérieur, si vous voulez, quoi, je n'aime pas beaucoup ce mot, qui permette quand même à l'homme de se retrouver dans ses expressions les plus différentes?
Bon, je comprends fort bien votre question et je puis y répondre par une prise de polémique presque immédiate. Voyons, quand il s'agit de la pensée scientifique, il s'agit d'une pensée qui, dorénavant, est une pensée sociale et qui est une pensée qui doit prendre son départ de connaissances qui sont arrivées à un point historique précis. En d'autres termes, le problème de l'esprit scientifique, c'est un problème actuel, d'une activité vraiment qui dépend de l'aspect dur du problème. Mais si vous allez du côté poétique, si vous allez du côté des valeurs d'inspiration, il faut leur laisser leurs racines individuelles. Le poète est nécessairement enraciné dans une valeur qui touche au fond humain et qui par conséquent n'est pas toujours sensible aux connaissances scientifiques.
L'un serait plus historique et l'autre plus transhistorique.
L'un est rendu historique, l'autre, le poète, je n'aime pas non plus ce mot, et admet des valeurs éternelles.
Oui,
il est sûr alors là que...
Pas beaucoup
vous êtes...
ce mot non plus.
Oui, mais réfléchissons. Ce mot est simplement un classement, ces mots sont des classements pour que nous y voyons clair. Comment est-on poète? Comment est-on vraiment dans une connaissance? Le mot connaissance, c'est pas si tout à fait métaphorique.
Ah oui.
Il s'agit de toucher des émotions. Il s'agit de manier des valeurs humaines qui n'ont pas besoin d'être travaillées scientifiquement.
Il y a des termes que vous employez, l'escurez-vous, depuis un moment, et qui me paraissent avoir besoin, malgré tout, d'une tentative de définition. Il est question de valeurs d'animation, mais quel sens donnez-vous, justement, à cette animation? Est-ce que l'animation constitue par elle-même une valeur?
C'est ça.
Mais nécessairement, au point de vue psychique, quand vous voyez l'homme tel qu'il est, l'homme n'est pas fait vraiment pour vivre un étiage uniforme. Constamment, l'homme est plein de surgissements. L'homme a besoin de nouveautés. Il a besoin de nouveautés jusque dans le langage. Le langage, par l'activité littéraire, est essentiellement en effervescence.
Oui.
Et alors, il n'y a plus de poésie didactique. Vous avez réagi.
Et l'œuvre de Queneau, quand même, est une œuvre réelle du point de vue poétique et qui, cependant...
Mais didactique.
Didactique.
La cosmogonie de notre ami Queneau, son personnel, il manie les nébuleuses d'une manière, évidemment, qui ne serait pas admise au laboratoire, à l'observatoire.
C'est ça qui est un charme,
n'est-ce pas? Quand il a fait un monde, et par conséquent, il vous offre des mondes. Et là, par conséquent, ici, nous ne sommes plus dans les livres, nous sommes dans les vieux songes. Nous retrouvons les cosmogonies anciennes qui sont rénovées, qui sont animées. Qu'est-ce que vous voulez de plus?
Qui sont rénovées, c'est ça le mot.
Mais rénovées, qui sont des thèmes de novation.
Oui.
Une image de Queneau.
Oui.
Et c'est une astronomie nouvelle.
Ah, ben voilà.
Eh bien, oui. Mais ce moment, ce n'est plus une astronomie scientifique.
En somme, il faut bien avouer qu'il y a deux lectures. La lecture en animus et la lecture en anima. Je ne suis pas le même homme selon que je lis un livre d'idées où l'animus se doit d'être vigilant, tout prêt à la critique, tout prêt à la riposte, ou un livre de poète où les images doivent être reçues dans une sorte d'accueil transcendantal des dons. Pour faire écho à ce don absolu qu'est une image de poète, il faudrait que notre anima pût écrire un hymne de remerciement. L'animus lit peu, l'anima lit beaucoup. Parfois, mon animus me gronde d'avoir trop lu. Lire, toujours lire, douce passion de l'anima. Mais quand, après avoir tout lu, on se donne pour tâche, avec des rêveries, de faire un livre, c'est l'animus qui est à la peine. C'est toujours un dur métier que celui d'écrire un livre. On est toujours tenté de se borner à le rêver. Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie.
Auf den fliegenden Wellen die Zeit. Morgen Schwind mit schippernden Flügeln, wieder wie gestern und heute die Zeit.
Profondément une valeur de connaissance.
Oui, bon, eh bien, vous donnez au mot connaissance un sens métaphorique.
C'est ce que je voulais dire. Je crois que là, le mot connaissance est pris dans un sens métaphorique. Nous sommes très loin de la connaissance scientifique. Or, le mot connaissance...
Mais nous sommes très loin de la connaissance, proprement dite, car précisément, il s'agit maintenant de faire quelque chose, de connaître quelque chose par vous-même, mais ce quelque chose, il ne sera qu'à vous-même. Non. Vous l'offrirez aux autres, et les autres, s'ils répètent l'image que vous venez, vous, poète, de créer, ils ne seront pas poètes. Ils ne connaîtront pas, vous avez été, si vous voulez, vraiment, devant un monde nouveau, vous avez créé un monde nouveau. Or, créer un monde nouveau qui est fugace, ou sur lequel vous ne reviendrez plus.
Peut-être, mais au moins...
C'est une connaissance. Mais non, c'est une extase, c'est une explosion, c'est le langage qui est en train de germer.
Oui, mais est-ce que le résultat, par le fait même qu'il est communicable, n'est-ce pas, est-ce que le résultat ne prend pas figure, sinon... tout à fait de connaissance, du moins d'une conduite de prise de conscience du monde.
Oh, ça vous donne une mondanité, comme disent les philosophes d'aujourd'hui, n'est-ce pas?
J'attendais le mot.
Mais oui, ça vous ouvre un monde. Ça vous ouvre un monde, et ce que vous demanderez après avoir cette ouverture du monde, vous lirez dans un autre poète une autre ouverture.
Mais cependant, il y a malgré tout une certaine histoire de la poésie. Bien que chaque poète, dans son expérience individuelle, reparte à zéro. Il reparte du silence pour créer un autre langage et un monde par ce langage.
Oui.
Et cependant, il y a malgré tout une certaine conception, et peut-être assez cohérente, d'un univers poétique.
En fait, on assiste à quelque chose qui peut paraître paradoxal, par exemple en peinture. Tout se passe comme si on ne pouvait rien faire de nouveau en peinture, qui, s'il est réussi, s'il est de la peinture, ne s'inscrive immédiatement dans la peinture, c'est-à-dire dans une histoire de la peinture. C'est-à-dire ne réintègre au fond ce qu'il paraissait d'abord nier.
Sans doute.
N'est-ce
sans
pas?
Doute, sans doute. Il est
y
sûr.
Il y a ça. Et puis il y a peut-être... Oui, tu voulais dire?
Non, je voulais dire simplement que Gaston Bachelard n'a pas encore exactement répondu à la question que j'avais posée en commençant, c'est-à-dire... des différents modes de connaissance qui peuvent exister, d'une hiérarchie qu'on peut instituer entre eux, ou bien s'il n'institue pas de hiérarchie, si Gaston Bachelard pense, par exemple, que l'homme est nécessairement double et qu'il y a, c'est sa conception que nous connaissons bien, l'homme diurne et l'homme nocturne.
Il est nécessairement double, puisqu'il est, c'est une banalité, je m'excuse de la répéter, mais il est dans le rythme de l'homme de la nuit et l'homme du jour. Qu'est-ce que j'entends par l'homme du jour? J'entends l'homme agissant précisément sur la réalité, dans une pensée qui est tout à fait socialisée actuellement et tout à fait scientifique. Et maintenant, que doit-il? Il n'a pas perdu ses valeurs de la nuit. Il n'a pas perdu précisément le fond de son psychisme. Et c'est là que toute la masse de l'inconscient, c'est là que la psychanalyse entre en jeu, c'est là que les archétypes entrent en jeu. Et là, il faut évidemment que le poète vienne réanimer cet homme qui serait enfermé dans sa nuit. Il a besoin par conséquent de nous aider à exprimer notre amour, exprimer notre sympathie pour l'univers, exprimer notre sympathie pour l'univers. Ça n'est pas le connaître, c'est l'aimer.
Pour tout dire d'un coup en une confidence personnelle, je viens de vivre durant une douzaine d'années toutes les circonstances de la division du matérialisme entre imagination et expérience. Et cette division, visible dans les faits, s'est peu à peu imposée à moi comme un principe méthodologique. Elle conduit cette division à prendre conscience d'une opposition radicale entre un matérialisme imaginaire et le matérialisme instruit. En d'autres termes, il y a grand intérêt, me semble-t-il, à distinguer en deux tableaux les éléments de la conviction humaine, la conviction par les songes et les images, la conviction par la raison et l'expérience. Les problèmes du matérialisme se poseront d'autant plus nettement que nous réaliserons plus franchement une totale séparation entre la vie rationnelle et la vie onirique, en acceptant une double vie, celle de l'homme nocturne et de l'homme diurne, double base d'une anthropologie complète. Une fois réalisée la division en imagination et raison, on peut voir plus clairement s'établir dans le psychisme humain le problème d'une double situation. C'est en effet un problème de double situation qui se pose quand on veut aborder sur des exemples nombreux et précis les rapports du règne des images et du règne des idées. Cette double situation n'est naturellement jamais bien assumée, rarement équilibrée dans les enquêtes des psychologues et des épistémologues. L'onirisme et l'intellectualisme sont chez l'enquêteur comme chez l'enquêté des polarités toujours un peu instables. Nous-mêmes, acharnés à notre double travail, nous n'avons jamais réussi à prendre sur cette double situation des perspectives d'égale profondeur. Tout dépend du problème envisagé, problème d'esthétique du langage ou problème de la rationalisation de l'expérience. Mais, même une fois aussi nettement engagées, les valeurs oniriques et les valeurs intellectualistes restent en conflit. Elles s'affirment souvent les unes et les autres dans ce conflit même. Gaston Bachelard, le matérialisme rationnel.
Si je vous comprends bien, l'homme, la conduite diurne, serait tout entière raisonnable.
Elle devrait l'être.
Elle devrait l'être, bon. Et la conduite nocturne serait tout entière imaginaire.
Il y a, si vous voulez, un mélange.
Ah,
il
voilà,
y a des
c'est
gens
là,
qui,
c'est là
il
que
Il y a
je
des
voulais.
Gens qui ne sont jamais réveillés. Et il y a des gens...
Qui ne sont jamais endormis.
Qui ne sont jamais endormis. Mais, au fond, et c'est par le sommeil que nous sommes le plus semblables les uns aux autres. Notre inconscient est d'une richesse humaine extraordinaire en images, en poésie et...
Vous venez de dire quelque chose qui me paraît extrêmement important, car si c'est par le sommeil que nous sommes les plus semblables les uns aux autres,
oui.
Alors nous trouvons peut-être dans l'imaginaire,
oui.
Nous trouvons peut-être dans
ne
la
disons
conduite,
pas dans l'imaginaire,
dans la conduite nocturne.
Dans la conduite nocturne, dans les valeurs de l'homme nocturne.
Dans les valeurs de l'homme nocturne, nous allons peut-être trouver précisément là la source de valeurs qui pourra permettre de
c'est
valoriser la science dont nous ne trouvons pas
alors,
tout à fait.
Alors, on ne fait pas de poème avec des arts poétiques, on ne fait pas de poème avec des théories, on fait des poèmes précisément par une surgie de ces valeurs inconscientes.
Il y a un avènement dans le
un avènement du poème.
Oui.
Et alors, naturellement, cela, il est livré à tout le monde. Vous ne pouvez pas refuser aux savants, pas plus qu'à n'importe quel homme, cette rêverie intime, ce besoin.
Ah, mais alors, bravo.
Et bien sûr.
Mais il n'est pas question de la lui refuser. Mais tout à l'heure, il m'a semblé qu'il vous avait échappé une expression qui m'a frappé. Vous disiez que l'existence poétique nous faisait aimer l'univers et non pas le connaître.
Oui.
De sorte que vous ne recevez pas le fait que l'expérience même de l'amour soit une forme privilégiée de connaissance. Et
oh,
à
non,
certains
oh,
égards,
non,
la
non,
connaissance
non, même... Alors, connaître, hein, prend des tonalités sur lesquelles je ne veux pas insister.
Oui, Jean Val a écrit ce livre, Connaître sans connaître, mais...
En connaissant un peu.
Oui, en connaissant un peu, tout de même, c'est un philosophe.
Oui, mais alors, qu'entendez-vous par connaître?
Ah, là, vous me posez une question massue.
Mais bien sûr.
Oui, mais alors, connaître, ça peut être tout simplement reconnaître. Connaître, ça peut être connaître dans la vie quotidienne. Et alors là, il y a par conséquent une répétition, une restitution de la nature qui peut vous dire que vous connaissez quelque chose. Quand un homme comme Van Gogh dit, je dessinerai 10 fois Luc Bécher. Je pourrais être sûr que Van Gogh connaît le bêcheur, l'homme qui bêche. Et là, par conséquent, il voudra précisément retrouver une nature qui l'a poétisée, la nature la plus pauvre, la nature du tisserand, la nature du mineur. Et là, par conséquent, là, vous ne pourrez pas dire que Van Gogh ne connaît pas l'homme au travail. Alors il l'a reconnu. Il vous l'a restitué dans des valeurs qui vous émeuvent.
Oui.
Mais naturellement, c'est pas un problème de connaissance au sens propre du mot.
Mais qu'entendez-vous alors par problème de connaissance au sens propre?
Mais c'est la pensée scientifique.
C'est la pensée scientifique.
C'est la pensée scientifique.
Et la pensée scientifique
ou raisonnable. Oui. Qui, telle qu'elle est maintenant en évidence, actuellement. Et si vous avez des idées sur les nuages, les merveilleux nuages, eh bien, si vous voulez connaître ce problème, il faudra évidemment faire de la météorologie.
Oui.
C'est une science des nuages que on ne soupçonne pas, mais qui est très poussée.
Oui, mais elle est très poussée. Je me demande si, au fond, elle n'est pas, elle aussi, métaphorique, et si cette science n'est pas la constitution d'un ensemble de symboles et de signes.
Elle est métaphorique, elle vous avertit, évidemment, du temps qu'il fera après-demain, et elle vous empêchera de prendre l'avion si la tempête est assurée. Remarquez, j'ai pris un exemple qui m'est tout à fait défavorable, n'est-ce pas?
Bien.
Oui. J'ai voulu vous montrer la connaissance baudelairienne des nuages, des merveilleux nuages, où t'en vas-tu voyageur, n'est-ce pas? Et une connaissance qui est alors cette fois scientifique.
Je me demande simplement alors ceci, c'est si quelque chose que je n'ose pas tout à fait appeler connaissance, mais donc quelque chose qui s'atteste et ne se démontre pas, peut encore faire l'objet, disons, pas tout à fait d'une connaissance, mais d'une conscience.
Mais pourquoi est-ce que vous voulez le mot connaissance quand vous venez de trouver le mot conscience? C'est cela.
Ah bien.
C'est la conscience humaine. Il est sûr qu'une œuvre d'art, que ce soit un poème ou un tableau, et ça vous donne évidemment un contact direct avec une réalité, avec une réalité humaine, avec un exploit humain. Il faut qu'un poème soit un exploit.
C'est ça.
Il ne peut être plus que cela. Il n'a rien à vous apprendre. Et une fois qu'il est produit, soyons beaux joueurs, n'est-ce pas, on n'en parlera plus.
Je pense que Benjamin Bélier, il n'a rien à vous apprendre dans le sens qu'il n'a rien à vous démontrer.
Bien sûr.
Mais il atteste, et dans le fait même qu'il atteste et qu'il se communique, vous pouvez ou non prendre conscience de son attestation.
Oui, et vous dites, oh, qu'il est glorieux ce poète.
Oui.
Oui, donc voilà,
oui.
Valeur humaine.
Oui,
c'est valeur humaine, valeur d'animation, mon cher.
Oui, valeur d'animation, je veux bien. Je crois aussi c'est que souvent la poésie est une valeur de désanimation au sens où vous paraissez prendre le mot animation. Je veux dire que, pour moi, il advient assez souvent que le propre même de l'action d'une œuvre d'art, non seulement sur ma sensibilité, mais sur tout mon être, est d'établir une sorte de sommeil.
Oui,
Dans au cours de cette plongée dans la vie onirique, j'ai le sentiment d'être mis en contact avec quelque chose qui n'est pas au-dessus, mais qui est au-dedans, qui est à l'intérieur de la réalité.
Eh bien, Nerval a donné cette expérience que vous donnez vous-même, n'est-ce pas?
Oui, mais je crois que c'est l'expérience de la poésie.
Ah, c'est une grande expérience de la poésie. Ça vous met, si vous voulez, dans l'être nocturne que nous avons tous, je ne sais quelle lumière diffuse, enfin, qui traverse, comme on dit, comme Nerval dit, à travers la porte de Karl, n'est-ce pas? Vous y voyez précisément ces lueurs qui animent ce qui pourrait dormir d'une manière exagérée. Et par conséquent, prenons Aurélien.
Oui.
Il vous met dans une situation où peut-être vous avez l'impression que vous dormez encore, mais que vous vous réveillez. Vous êtes dans un balancement de lumière et d'ombre. Et c'est ce qui fait la poésie irremplaçable d'un Nerval. Alors, par conséquent, il vous demande de rentrer en vous-même. Vous avez fort bien exprimé ma pensée à cet égard. La poésie doit être quelquefois une exubérance vers le monde extérieur, mais il faut que vous vous sentiez que c'est vous qui faites cette action exubérante. Et là, il faut que vous retrouviez cette chaleur intime, cette douceur intime, cette poésie, si vous voulez, radicale, qui peut être réveillée dans beaucoup plus d'esprits qu'on connaît.
Oui, mais en quoi alors l'animation que représente la conduite scientifique pour le savant est-elle totalement différente de cette animation poétique?
Oh, je ne saurais vous dire, mais ça me semble si évident. Vous n'ouvrez pas de la même façon un livre d'analyse mathématique et un livre de Gérard de Nerval. Vous n'êtes pas le même esprit, je ne suis pas le même homme.
Ça, ce sont des résultats, mais la conduite qui amène le savant à être un savant, c'est la conduite qui amène le poète à faire un poème.
Oh, ce n'est pas sa table. En disant,
non,
là, je vais
non,
faire
non,
un
non,
poème,
non,
n'est-ce
non,
pas
non, non.
Il vous vient, il est imposé, vous avez pas, votre nuit a été plus dramatique ou plus légère, et alors naturellement, vous mettez devant cette belle page blanche, et puis immédiatement, enfin, le poème se présente. Et là, par conséquent, vous avez là une espèce de surgit de l'homme nocturne dans une expression nouvelle. Et puis alors vous êtes vraiment, au point de vue linguistique, une espèce d'arbre qui est en train de parler dans toutes ses feuilles. Quoi. Le vent traverse entre vos deux teintes, n'est-ce pas? Il semble que par conséquent, vous êtes inspiré. Pas, il n'y a pas de poète, qui, même le plus modeste, qui n'ait fort heureusement sa petite minute d'inspiration. S'il y a quelque chose de bien dans un poème, vous dire, oh, celui-là, il en a reçu le don, quelque chose est venu parler en lui. C'est peut-être pas lui, c'est nous tous.
Oui. Oui,
alors, la poésie devient une poésie qui peut être comprise par tous, précisément, tout en étant très individuel dans son surgissement, précisément parce qu'il met au jour un fond humain extraordinaire.
Sans l'aide des poètes, que pourrait faire un philosophe chargé d'ans qui s'obstine à parler de l'imagination? Comment entrer dans la poéticosphère de notre temps? Une ère d'imagination libre vient de s'ouvrir. De toutes parts, les images envahissent les airs, vont d'un monde à l'autre, appellent et l'oreille et les yeux à des rêves agrandis. Les poètes abondent, les grands et les petits, les célèbres et les obscurs, ceux qu'on aime et ceux qui éblouissent. Qui vit pour la poésie doit tout lire. Que de fois, d'une simple brochure, a jailli pour moi la lumière d'une image neuve. Quand on accepte d'être animé par des images nouvelles, on découvre des irisations dans les images des vieux livres. Les âges poétiques s'unissent dans une mémoire vivante. Le nouvel âge réveille l'ancien. L'ancien âge vient revivre dans le nouveau. Jamais la poésie n'est aussi une que lorsqu'elle se diversifie. Quel bienfait nous apportent les nouveaux livres. Je voudrais que chaque jour me tombe du ciel, à pleine corbeille, les livres qui disent la jeunesse des images. Ce vœu est naturel, ce prodige est facile, car là-haut, au ciel, le paradis n'est-il pas une immense bibliothèque? Mais il ne suffit pas de recevoir, il faut accueillir. Il faut, disent d'une même voix le pédagogue et la diététicienne, assimiler. Pour cela, on nous conseille de ne pas lire trop vite et de prendre garde d'avaler de trop gros morceaux. Diviser, nous dit-on, chacune des difficultés en autant de parcelles qu'il se peut pour les mieux résoudre. Oui, mâchez bien. Buvez à petites gorgées, savourez vers par vers les poèmes. Tous ces préceptes sont beaux et bons, mais un principe les commande. Il faut d'abord un bon désir de manger, de boire et de lire. Il faut désirer lire beaucoup, lire encore, lire toujours. Aussi, dès le matin, devant les livres accumulés sur ma table, au Dieu de la lecture, je fais ma prière de lecteur dévorant. Donnez-nous aujourd'hui notre faim quotidienne. Gaston Bachelard, La poétique de la rêverie.
C'était L'homme du jour, l'homme de la nuit. Document INA, Gaston Bachelard, Jean Amrouche, Jean Lescure, 1952. Une émission composée par Michel Cohen, Janine Antoine. Texte lu par Claude Royer-Journeau. Collaboration technique, Daniel Bézien. Yvette Hubeau. Un rêveur de mots. Gaston Bachelard.
Histoire et formation de l'esprit scientifique. Deuxième partie. Archives 1947-1962. Cette semaine, les grands travaux scientifiques. Suite de figures, de l'essor scientifique sous le Premier Empire, la Restauration et la Révolution de 1830. Gaston Bachelard, 1949.
Une Les sciences sous le Premier Empire. En retraçant l'histoire des sciences dans la période du Directoire et du Consulat, nous avions indiqué les efforts du Premier Consul pour aider non seulement à l'organisation des sciences, mais aussi pour donner un lustre particulier à l'activité des savants. Le général Bonaparte, dès son arrivée en Égypte, y avait fondé un institut des sciences. Dès sa rentrée à Paris, il avait tenu à venir siéger dans la classe de l'institut, comme on disait alors, qu'il avait élevé au rang de ses membres. Pendant toute la durée de son règne, Napoléon resta très attentif aux travaux de l'Académie des sciences. Il combla d'honneur les savants qui en faisaient partie. Lagrange, qu'il appelait la haute pyramide des sciences mathématiques, fut nommé comte et sénateur. Laplace reçut les mêmes titres. Fourier fut préfet de l'Isère. Guiton de Morveau, directeur des monnaies et baron de l'Empire. D'ailleurs, l'intérêt que l'empereur portait au développement des sciences n'est qu'un écho de cette passion sincère pour la pensée scientifique qui animait tous les esprits cultivés au commencement du siècle dernier. En ce temps-là, on ne mettait pas en question la valeur de la science. Et en fait, la science française se développa dans un enthousiasme philosophique de bon aloi. Sous l'Empire, parurent les mémoires les plus importants du mathématicien Joseph Fourier. Fourier établit la théorie mathématique de la propagation de la chaleur dans les solides. Ce n'est pas là un simple travail de mise en équation de phénomènes particuliers. En réalité, les mémoires de Joseph Fourier fonde une science nouvelle, la physique mathématique. Nous en verrons le développement avec Ampère, Poisson, Cauchy, Lamé dans la première partie du XIXe siècle. Mais dès son origine, cette science nouvelle montrait sa double fécondité comme organisation des notions physiques fondamentales et comme inspiratrice de mathématiques pures. En effet, c'est en 1812 que parut l'étonnant mémoire de Fourier sur les séries trigonométriques. Ces séries trigonométriques sont nées d'observations sur la propagation de la chaleur. Les extensions du théorème de Fourier sont actuellement considérables. À la fin de l'Empire, le mathématicien Laplace fit paraître deux ouvrages sur les probabilités. En 1812 encore, le traité analytique de probabilité, et en 1814, l'essai philosophique sur les probabilités. Par ces deux ouvrages, le calcul des probabilités, qui devait avoir un si grand développement au 19e et au 20e siècle, était proposé à la double attention des mathématiciens et des philosophes. Mais c'est peut-être du côté des sciences physiques et chimiques que l'essor des pensées fut le plus décisif en ces temps héroïques. En 1807 et 1808, se succédèrent en Angleterre les prodigieuses expériences d'Humphrey Davy. Par le courant électrique, Davy décomposa successivement la potasse et la soude. Ces substances, si souvent maniées par les chimistes des siècles antérieurs, passaient pour indécomposables. Davy isola ainsi les deux métaux alcalins, le potassium et le sodium. Lucien Poincaré a signalé l'étonnement du monde savant devant une telle découverte. Il la compare à la découverte du radium par Pierre Curie et Madame Curie à la fin du 19e siècle. D'autres métaux furent rapidement isolés en 1809. Le barium, le strontium, le calcium, le magnésium. David fut honoré d'un prix décerné par l'Institut de France. Nous étions alors en plein blocus, mais cette considération était de peu de poids pour des esprits convaincus que la science est une valeur humaine universelle. Par d'autres méthodes, Gay-Lussac et Thénard isolèrent le bore. Le savant dijonnais Courtois, salpêtrier à Paris, trouva en 1813 l'iode dans les cendres des plantes marines. Les pensées théoriques suivaient les progrès de l'expérience. En 1807, Berthollet se rallia aux thèses de Proust après des débats interminables. En 1811, Avogadro énonça sa loi qui, sous des formes philosophiques différentes, garde une valeur de premier rang. Les recherches scientifiques n'allaient pas sans péril. En 1808, Gay-Lussac faillit perdre la vue par des projections du nouveau métal, le potassium. Il fut soigné par le grand médecin Dupuytren. En 1812, Dulong perdit un œil et un doigt par l'explosion de la combinaison de l'azote et du chlore. Les sciences naturelles n'étaient pas moins actives. La minéralogie recevait une impression nouvelle grâce aux travaux de l'abbé Ahuy. De Candolle multipliait ses travaux de botanique. Cuvier poursuivait ses recherches sur l'anatomie des animaux et formulait sa théorie célèbre de la fixité des espèces, tandis que Lamarck publiait en 1809 sa philosophie zoologique, base du transformisme. On le voit, toutes les sciences se développèrent rapidement dans un climat de confiance. Un petit exemple précis que nous donnerons pour finir dira mieux cet optimisme que toute la discussion philosophique. À la fin d'un rapport historique sur les progrès récents des sciences naturelles, rapport présenté à l'empereur en 1810, Cuvier écrivait tranquillement, avec la plus grande simplicité du monde, montrant que à quelque chose, malheur est bon. Cuvier écrivait, dis-je, l'opération des assignats, quels qu'aient été ses résultats politiques, a laissé à l'art du papetier des perfectionnements durables et surtout l'emploi de l'acide muriatique oxygéné pour le blanchiment de la pâte. C'est même à elle, l'opération des assignats, que l'on doit en grande partie le nouvel emploi des caractères stéréotypes qui augmenteront les bienfaits de l'imprimerie en faisant pénétrer les conceptions du génie jusque dans les plus humbles chaumières.
Gaston Bachelard, 1949.
Par une continuité propre à la science, nous retrouvons, pendant la Restauration, les mêmes hommes au travail, malgré la différence des régimes. En particulier, la cohorte des physiciens et des chimistes est aussi nombreuse et active. Chaptal, Berthollet, Gay-Lussac, Biot accumulent les mémoires scientifiques. Vauquelin découvre le chrome. Les mathématiciens Poisson et Legendre sont devenus des maîtres. Le mémoire de Legendre sur les fonctions elliptiques mémoire d'une singulière portée, paru en 1825. Le gendre avait 73 ans. Mais les temps de la Restauration voient apparaître de jeunes génies. Nous allons mettre aujourd'hui en lumière les travaux de Cauchy, d'Ampère, de Fresnel et de Carnot. En 1815, Cauchy a 25 ans. Le grand mathématicien Lagrange, parlant à un autre grand mathématicien à la place, avait dit de Cauchy, tandis que Cauchy n'était qu'un jeune polytechnicien, ce petit jeune homme nous remplacera tous comme mathématicien. Enfin, dans les domaines les plus variés des mathématiques, Cauchy fut rapidement un maître. De 1820 à 1830, il étudia les fonctions des variables imaginaires et il établit la théorie des fonctions analytiques qui est à la base de toute l'analyse mathématique moderne. Le nombre et l'ampleur des mémoires publiées par Cauchy au cours d'une longue vie de travail pose à la culture mathématique un curieux problème. Il faudrait sans doute plusieurs années à un mathématicien, à un bon mathématicien, pour lire toute l'œuvre de Cauchy aujourd'hui. Cauchy était vraiment le savant de la Restauration. C'était un royaliste légitimiste convaincu. À la chute de Charles X, en 1830, il abandonna toutes ses charges universitaires pour suivre le souverain déchu dans son exil. Le génie de Poncelet s'était manifesté dans des circonstances dramatiques. Né en 1788, il entra à l'école polytechnique, il entra ensuite dans l'armée comme officier du génie. Il fut fait prisonnier lors de la retraite de Russie. Il avait fait la campagne dans l'armée du maréchal Ney. En méditant dans sa prison, en Russie, à Saratov, les leçons qu'il avait reçues du mathématicien français Monge, dont nous avons parlé récemment, Poncelet vit l'importance de ce qui s'appelle encore le principe de dualité, principe que la géométrie élémentaire utilise dans les problèmes de pôles et polaires, qui sont ces problèmes, à mon avis, autant de tests pour déceler le goût des mathématiques chez nos jeunes élèves. Rentré en France, ce n'est qu'en 1822 que Poncelet put publier son œuvre maîtresse, qui a pour titre « Traité des propriétés projectives des figures », traité qui complète un vieux traité d'un mathématicien français Desargues, qui, du temps de Descartes, avait donné les premières lumières sur la géométrie projective. Ce livre n'eut pas un succès immédiat. L'avenir devait montrer cependant la grande fécondité des idées de Poncelet. Un autre grand génie, Ampère, avait déjà publié sous l'Empire d'importants travaux sur les mathématiques. Mais c'est sous la Restauration qu'il eut l'occasion d'étudier les phénomènes électrodynamiques du point de vue à la fois expérimental et théorique. En quelques semaines, dans un laboratoire de fortune, il put fixer les lois de l'action mutuelle des courants électriques. Comme Maxwell, le grand savant anglais, un demi-siècle plus tard, se mit à réfléchir sur les lois de l'électrodynamique et de l'électromagnétisme, il rendit hommage au grand génie que fut Ampère en l'appelant le Newton de l'électricité. Du Newton de l'électricité que fut Ampère, on peut justement rapprocher Augustin Fresnel, qui mérite, lui, d'être appelé le Newton de la science optique nouvelle. Fresnel est vraiment, lui aussi, un savant de la restauration. Né comme Poncelet en 1788, il fut révoqué de son poste d'ingénieur pour son activité royaliste au début des 100 jours. Il occupa ses loisirs à des recherches sur les interférences de la lumière. Avec des moyennes fortunes, il put déterminer, avec une étonnante précision, la longueur d'onde des vibrations lumineuses produisant les différentes couleurs. Arago admira tout de suite les travaux de Fresnel et le soutint avec constance dans ses efforts pour faire prévaloir la théorie des ondulations. Les travaux d'Augustin Fresnel sur les franges de diffraction complétèrent bientôt les recherches sur les franges d'interférence. Quand Fresnel mourut en 1827, âgé seulement de 39 ans, la science optique était vraiment transformée. La théorie des ondulations s'était peu à peu substituée à la théorie corpusculaire de Newton. Quelques années plus tard, une expérience de Fizeau confirma la prévalence de la théorie de Fresnel. Au XXe siècle, il apparaîtra nécessaire d'établir une synthèse entre les théories adverses des ondulations et des propriétés corpusculaires, mais il n'en reste pas moins acquis que la science frénélienne expliquait et explique encore un ensemble considérable de phénomènes optiques. Sous la Restauration fut publié un mémoire qui passa complètement inaperçu, malgré son extrême importance. Il s'agit du mémoire de Sadi Carnot, intitulé « Réflexion sur la puissance motrice du feu et les machines propres à développer cette puissance ». Carnot, qui était né en 1796, mourut en 1832 sans avoir pu attirer l'attention sur ce mémoire paru en 1824. Et pourtant, le théorème que nous appelons maintenant le théorème de Carnot est à la base même d'une science très rigoureuse, la thermodynamique. La thermodynamique est une véritable mécanique rationnelle de la chaleur, une véritable mécanique rationnelle de l'énergie. Le principe de Carnot, joint au principe de la conservation de l'énergie, règle l'évolution de tous les phénomènes. Ce ne fut qu'après de longues années qu'on reconnut la valeur des pensées de Carnot. Nous reviendrons dans une prochaine causerie sur le drame de ces grands génies méconnus.
Gaston Bachelard.
Il est naturellement difficile de caractériser l'évolution de la pensée scientifique en se limitant à une période révolutionnaire aussi courte que celle qui a vu la substitution de la monarchie orléaniste à la monarchie légitimiste. Mais on se tromperait en voyant dans la révolution de Juillet une révolution en 3 jours, une révolution de palais. La révolution de 1830 commença la lutte des revendications de la liberté contre les forces de la tradition, une lutte qui ne cesse pas, et c'est pourquoi des hommes de science comme Arago se retrouveront en 1848 dans la même situation de protestation où ils s'étaient trouvés en 1830. Les savants, dans leur grande majorité, sont alors, comme on dit à l'époque, du parti du mouvement. En 1830, l'université, dans son ensemble, était progressiste. Les historiens ont souligné l'adhésion de la jeunesse des écoles au mouvement révolutionnaire. Les élèves de l'école polytechnique y ont pris une part importante. Alexandre Dumas, dans ses mémoires, dit que l'école polytechnique comptait 40 à 50 républicains dans son sein. Les cris révolutionnaires de « Vive la charte » retentissaient chaque jour au Quartier Latin. Les maires, comme François Aragon, prirent une part active au mouvement. Aragon avait porté l'opposition au trône jusque dans l'Académie. Au grand scandale de Cuvier, en faisant l'éloge du grand savant Fresnel, mort en 1827, Aragon avait eu d'ardentes allusions, dit Dumas. Il avait soulevé les frénétiques applaudissements de ses confrères. L'adhésion d'Arago au mouvement révolutionnaire avait une grande importance en ces temps où l'on avait confiance en la haute valeur de la pensée scientifique. Arago, dit encore Dumas, c'est non seulement la science, mais encore la conscience. Non seulement le génie, mais encore la probité. Rien ne marque mieux d'ailleurs le climat de science universelle qui était celui de la pensée au moment où la révolution s'accomplissait. En cette époque, il y eut une attribution du grand prix de mathématiques au Norvégien Abel et à l'Allemand Jacobi. Abel, prodigieux génie, venait de mourir quand le prix lui fut décerné. Cet honneur posthume prouve du moins que les mathématiciens français eurent l'intuition de la portée incalculable de l'œuvre d'Abel. Et pourtant, une œuvre capitale fut méconnue en 1830. Un des plus grands génies mathématiques de tous les temps disparut tragiquement sans avoir pu trouver l'audience des mathématiciens de l'époque. Disons rapidement le destin de ce grand mathématicien français, le destin d'Évariste Galois. Galois est né en 1811 à Bourg-la-Reine. Dès le lycée, il a pu remarquer par ses aptitudes à la pensée mathématique. En revanche, il méprisait trop ouvertement, la culture générale. Il fut refusé à l'examen d'entrée à Polytechnique. Ce fut son premier déboire. Il était attiré à Polytechnique non seulement par la réputation scientifique de l'école, mais encore, dit un historien, par l'esprit libéral qui y régnait. En 1829, Galois avait soumis un mémoire à Cauchy. Cauchy égara ce mémoire. Un deuxième mémoire qui devait être examiné par Navier et Fourier subit le même sort. Galois est bien excusable d'avoir suspecté ses contemporains d'une conspiration du silence, comme on dit aujourd'hui. Galois prit une grande part au mouvement révolutionnaire de 1830. Mais les résultats de la révolution le déçoivent vite. Il est de ceux qui croient, comme le dit Balzac, que Juillet s'est menti à lui-même et qui souscrit à la nécessité de reprendre tout de suite la lutte révolutionnaire. Le gouvernement de Louis-Philippe fit arrêter Galois à deux reprises. Il fut enfermé à Sainte-Pélagie et en 1832, c'est la fin dramatique. À la suite d'une rivalité amoureuse, Évariste Galois est tué en duel. La nuit qui précéda le duel, Galois, conscient de son génie, l'employa à rédiger activement les résultats les plus importants de ses recherches mathématiques. Dans ses notes d'une nuit fiévreuse, la théorie moderne des groupes est tracée dans ses grandes lignes. Cette théorie devait avoir par la suite un développement considérable, mais ce développement ne fut pas immédiat. Dans ces domaines, Évariste Galois était d'un quart de siècle en avance sur la pensée de son temps. La chimie et la physique française, dans les années qui suivent 1830, voient de nouvelles équipes s'associer aux anciennes. Ceux qui furent jeunes alors, lors de la première révolution, les Gay-Lussac, les Biot, travaillent encore. Pelouse, Becquerel, Boussingault, Thénard suivent leurs traces. En 1830, Jean-Baptiste Dumas, qui devait régner durant un demi-siècle sur la chimie française, commence sa carrière scientifique. Dans la seule année 1830, Dumas fait paraître 7 mémoires aux annales de chimie et de physique. Enfin, c'est dans une séance de l'an 1830 qu'éclata au grand jour la sourde rivalité de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire. Averti de la séance mémorable de l'Institut où s'étaient affrontés le fixisme de Cuvier et le transformisme de Geoffroy Saint-Hilaire, Goethe, le vieux Goethe, y prit plus d'attention qu'à la révolution politique de Juillet. « Je me réjouis, dit-il, d'avoir assez vécu pour voir le triomphe de la théorie des transformations des espèces vivantes. » Balzac lui-même, dans Les Illusions perdues, a rappelé la lutte de Cuvier et de Geoffroy Saint-Hilaire. « Deux génies égaux, dit-il. » Sur le plan même de la science, Balzac voyait éclater le conflit entre la tradition et les forces de transformation. Il comprenait que la pensée scientifique est une pensée révolutionnaire.
C'était Gaston Bachelard, 1884-1962, Histoire et formation de l'esprit scientifique. Rediffusion. Un rêveur de mots, Gaston Bachelard, par Michel Cohen, 1983. Suivi de Gaston Bachelard, bis, archive. Cette semaine, les grands travaux scientifiques. La semaine prochaine, les grands savants du 19e siècle. Bibliographie disponible sur franceculture.com. Isabelle Mézil, Philippe Palares, Hervé Evano, Marc-Hubert Floriot.